Radio Prague, les informations.
Bonjour et bienvenue dans le bulletin d'information de la rédaction française de Radio Prague. Les principaux titres aujourd'hui, les suites de l'affaire des avions Casa, la rencontre entre le nouveau ministre de la Justice, Pavel Blažek, et la procureure Lenka Bradáčová, et enfin restitution des biens aux églises, le vote à la Chambre des représentants pourrait avoir lieu vendredi. Selon Petr Nečas, le premier ministre tchèque, la levée de l'immunité parlementaire de la députée Vlasta Parkanova, votée mercredi à une large majorité par ses collègues, était la seule option logique. Il souhaite que tous les moyens soient mis en œuvre pour enquêter sur le cas de l'ancienne ministre de la Défense. Elle aurait joué un rôle dans l'achat douteux de 4 avions militaires de transport Casa. Affaire des avions Casa, toujours, le chef de la police, Peter Lessy, a déclaré avoir été contacté par téléphone par le ministre des Finances, Miroslav Kalousek, lequel pourrait être impliqué dans cette affaire. Selon le chef de la police, Kalousek aurait reproché aux enquêteurs d'avoir tenté de l'intimider. Il se serait par la suite excusé. Le ministre des Finances a invité Peter Lessy à fournir des preuves appuyant ses informations. Le nouveau ministre de la Justice, Pavel Blažek, rencontrait ce jeudi la procureure Lenka Bradáčová pour discuter de son éventuelle nomination à la tête du ministère public à Prague. Ils ont déclaré s'être compris sur beaucoup de points et se sont mis d'accord pour organiser lundi prochain une rencontre à Troyes avec Pavel Zeman, le chef du ministère public suprême. La Chambre des représentants pourrait voter ce vendredi la loi sur la restitution des biens aux églises. L'opposition ne cache cependant pas vouloir à nouveau repousser le vote après les vacances pour que le projet de loi puisse être examiné et probablement rejeté par le Sénat, où le Parti social-démocrate est majoritaire. Le tribunal régional d'Oustinadlaben a condamné ce jeudi Peter Kuchniers, l'ancien directeur de l'office du conseil régional d'Oustinadlaben en Bohême du Nord, à 7 ans et demi de prison et à 30 000 euros d'amende pour corruption et abus de confiance. Selon le tribunal, il souhaitait soutirer près de 70 000 euros auprès de porteurs de projets sollicitant les dotations européennes. Le gouvernement a approuvé mercredi la poursuite de l'aide humanitaire apportée aux ressortissants syriens soignés en République tchèque. Le cabinet a ainsi décidé d'allouer 6 millions de couronnes, soit environ 236 000 euros, à cette aide humanitaire. Un peu de culture enfin, d'abord avec le réalisateur américain Brian De Palma qui est présent à Prague pour 2 jours pour suivre l'enregistrement par l'Orchestre Symphonique National Tchèque de la musique de son nouveau thriller intitulé Passion. Un marché français a été ouvert ce jeudi matin à l'occasion de la fête nationale française sur l'île pragoise de Kampa. Quelques 23 stands proposent à la vente vin, fromage, charcuterie, crêpes et autres spécialités françaises. Et ceci jusqu'au 15 juillet prochain. À noter également la tenue de bal populaire le 14 et 15 juillet. On finit avec la météo. C'est un temps variable qui règne sur la majeure partie du territoire ce jeudi, jour de la fête des Bojek. Les nuages seront toutefois plus nombreux que mercredi et entraîneront des averses à caractère passager. Les températures sont en baisse et varient entre 16 et 22 degrés pour les maximales en Bohême et entre 19 et 24 degrés en Moravie. Merci d'avoir suivi ce bulletin d'information qui vous était présenté par Pierre Ménian. La suite du programme avec Guillaume Narguet.
Faits et événements en République tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci donc à Pierre pour ce bulletin d'information et bienvenue à vous, chers auditeurs, à l'écoute de l'actualité tchèque sur Radio Prague. Au sommaire de cette actualité figure tout d'abord de la politique avec la levée de l'immunité parlementaire de la vice-présidente de la Chambre des députés. L'ancienne ministre de la Défense est soupçonnée d'abus de pouvoir et de confiance lors de l'achat d'avions militaires il y a quelques années. Mais l'affaire inquiète bien plus de responsables politiques de l'époque, comme nous l'entendrons dans quelques instants. Direction ensuite Avignon, où le célèbre festival rend hommage à l'ancien président tchèque et dramaturge Václav Havel. Et puis, comme tous les 15 jours, la seconde partie de notre programme sera consacrée au tourisme et à la découverte de ce beau pays qu'est la République tchèque. Cette semaine, nous vous emmenons à Třebíč, une ville morave classée au patrimoine de l'UNESCO. Mais avant de développer tous ces titres, nous vous souhaitons une excellente écoute à toutes et à tous. « On commence donc avec de la politique. Comme cela était plus ou moins attendu, la Chambre des députés a levé mercredi l'immunité parlementaire de sa vice-présidente Vlasta Parkanova, ouvrant ainsi la voie à des poursuites judiciaires. Ancienne ministre de la Défense sous le gouvernement Topolánek, Vlasta Parkanova est soupçonnée d'abus de pouvoir et de confiance lors de l'achat en 2009 de 4 avions militaires de transport CASA pour un montant très supérieur au coût réel estimé par les enquêteurs. 117 voix pour, 45 contre. Bien que précédé d'un débat de près de 5 heures, le résultat du vote des députés a été unanime ou presque. Privée de son immunité parlementaire, Vlasta Parkanova a réagi en démissionnant de ses fonctions de vice-présidente de la Chambre des députés. Depuis la signature du contrat d'une valeur de près de 140 millions d'euros, la commande des avions CASA au constructeur AIDS a fait couler beaucoup d'encre. En 2010 déjà, la Commission européenne avait ouvert une enquête au titre d'infraction à la réglementation communautaire sur les marchés publics. Bruxelles reprochait alors à la République tchèque de ne pas avoir respecté les règles européennes en attribuant le contrat d'achat sans appel d'offres et en ayant ainsi empêché une mise en concurrence. Le gouvernement tchèque avait alors réagi en mettant sa législation en conformité et l'enquête au titre d'infraction à la réglementation européenne sur les marchés publics avait été refermée. C'est donc la police tchèque qui a pris le relais il y a quelques semaines de cela. Les enquêteurs estiment en effet que le coût des avions a été surévalué d'environ 17 millions d'euros. Et elle soupçonne Vlasta Parkanova d'avoir joué un rôle dans cette transaction douteuse et opaque. L'ancienne ministre de la Défense n'aurait notamment pas suivi l'avis des experts concernant le prix du marché des avions. Mais beaucoup estiment que Vlasta Parkanova ne servirait que de marionnette, comme du temps où elle était à la tête de la défense. Pour la police, les interrogatoires de l'ancienne ministre pourraient permettre d'obtenir de nouvelles informations sur les autres acteurs de cette affaire et peut-être même d'autres encore, la plupart des commandes militaires en République tchèque ayant fait l'objet de multiples soupçons de corruption. Une version des faits que nie toutefois Vlasta Parkanova, qui rejette toute accusation. On l'écoute.
C'est une approbation scandaleuse à la théorie selon laquelle je dois être accusée d'actes délictueux uniquement pour que la police, en menant des poursuites contre ma personne, puisse découvrir les délits commis par d'autres malfaiteurs.
Et parmi les personnages susceptibles d'être inquiétés par la police figure un des hommes politiques les plus influents et les plus en vue de ces dernières années, l'actuel ministre des Finances Miroslav Kalousek, vice-ministre de la Défense dans les années 1990 et également membre du gouvernement au moment de l'achat des avions. Depuis que la demande de la levée de l'immunité parlementaire a été formulée par la police, Miroslav Kalousek défend bec et ongle Vlasta Parkanova, son ancienne collègue de parti. Il s'en est pris notamment aux pratiques de la police, des pratiques que Miroslav Kalousek a comparées à celles de la STB, l'ancienne police secrète communiste. On l'écoute.
Les organes actifs dans la procédure pénale ne peuvent plus imaginer plus grande absurdité que celle-ci. C'est impossible. N'importe quel policier peut désormais venir à la Chambre des députés et accuser qui que ce soit parmi nous. Avec ce vote aujourd'hui, j'affirme que l'immunité parlementaire a été supprimée. Elle l'a été de facto, et si elle ne l'est pas encore d'un point de vue législatif, alors c'est moi qui présenterai le projet de loi pour qu'elle le soit.
Même parmi les députés qui ont voté pour la levée de l'immunité parlementaire de Vlasta Parkanova, relativement nombreux sont ceux qui estiment que l'accusation de la police est incomplète, l'ancienne ministre ne pouvant être la seule à porter le chapeau. Malgré cela, la Chambre des députés, à l'image déjà très écornée par la multiplication des scandales en tout genre, ne pouvait pas se permettre, en l'état actuel des choses, de conserver sa vice-présidente. Tant pis pour elle, mais reste à savoir si ce sera tant mieux pour les autres, probablement les véritables responsables. On passe à la culture. Le 66e Festival d'Avignon, qui se poursuit jusqu'au 28 juillet, rend hommage à l'ancien président tchèque et dramaturge Václav Havel. Avant que le théâtre Husa na Provazku, une compagnie tchèque de Brno, n'y présente le 15 juillet la pièce Circus Havel, le réalisateur Stéphane Meldeg et le comédien Pierre Arditi ont donné, dans le cadre du Festival d'Avignon à la maison Jean Villard, une lecture d'audience 33 ans après avoir fait découvrir pour la première première fois ce texte au public du festival. Dans une interview exclusive pour Radio Prague, Pierre Arditi se souvient de ce spectacle de 1979, très important pour sa carrière de comédien. Pierre Arditi est au micro d'Anne Clairvelui.
Évidemment, d'abord on était très impressionné par le texte de Havel lui-même, mais on a surtout été très impressionné par son engagement, son combat, et quand on a commencé à jouer, on venait de le remettre en prison. Donc évidemment, il y a eu une pression tout à fait supplémentaire qui n'était pas prévue au programme, c'est-à-dire qu'on avait l'impression de faire autre chose que de jouer une pièce, mais on avait aussi l'impression de distribuer un tract et de tendre le poing pour qu'on le libère, quoi. Donc ça a été à la fois tout à fait un souvenir absolument magnifique et en même temps un souvenir assez dur, voilà.
D'accord. Oui. Alors le personnage de Vaniek que vous interprétez...
Ben, disons, oui, c'est lui.
C'est lui, voilà, oui, on sait très bien. Comment vous le...
Mais ce qui était bien d'ailleurs dans la mise en scène de Meldegh, et c'est ce que Havel avait aimé quand il est venu ensuite pour voir, c'est que le personnage de Vaniek, c'est-à-dire donc de Havel, ne juge pas. Il n'y a pas de condamnation, il y a une condamnation d'un certain nombre de principes, d'un certain nombre de principes bafoués, écrasés du talon. Ce qui est beau d'ailleurs dans la pièce, c'est que ce que dit le brasseur à la fin, c'est tout à fait exact. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui passe d'ailleurs. Même si sa situation est difficile à ce moment-là, il a une renommée telle que sa renommée le protège. L'autre n'est protégé par rien. C'est un anonyme, il retournera au fond. Et la direction qu'avait choisi Meldegh en me faisant jouer, c'était que le personnage de Vaniek ne porte pas de jugement défavorable sur le brasseur, par exemple. Voilà. Parce qu'il considère que ce brasseur est lui aussi une victime. Voilà. Et ça, c'était une jolie direction de travail, que j'ai d'ailleurs retrouvée en lisant comme ça, 33 ans plus tard.
Le metteur en scène Stefan Meldegh, auteur de la mise en scène d'Audience de Václav Havel en 1979 dans le cadre du Festival d'Avignon, nous raconte son histoire particulière avec cette pièce.
C'est-à-dire que j'étais le premier à le faire en France, que c'était aussi pour moi avait été l'occasion de le rencontrer. J'ai pu le rencontrer en Tchécoslovaquie même. Avant que tout change et qu'il devienne président. Et on avait déjà, il était en prison quand, avec Ariane Mouchkin, on avait fondé l'AIDA, c'était pour soutenir les artistes poursuivis dans le monde. Et on a fait une soirée pour Havel pendant qu'il était en prison. Et on a été très contents d'avoir appris à cette occasion que jusqu'à la prison, cette nouvelle lui était provenue. Ensuite, j'ai pu le rencontrer lui-même quand il était à nouveau libre. Et ces deux, Audience et Vernissage, sont deux pièces qui m'ont immédiatement énormément plu. Et je les ai montées donc ici au festival. Pour Aditi notamment, c'était un espèce de démarrage formidable parce qu'à Paris, il a eu des merveilleuses critiques après.
Ça a permis de lancer sa carrière.
Voilà.
Václav Havel est connu pour le théâtre de l'absurde. Ouais. Finalement, quand je vous ai écouté ce matin faire cette lecture d'Audience, on sent cet humour, cette ironie, ce côté absurde. Et en même temps, quand on connaît un peu l'histoire du pays, ça semble terriblement vraisemblable ou réel. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ah, ces petites pièces, écoutez, comme je l'ai raconté, ces petites pièces étaient écrites par lui pour que pendant qu'il n'est pas là, qu'il est en prison, ses copains avaient des petites choses à se mettre sous la dent et de jouer. Ça, on peut jouer ça dans un salon, on peut jouer ça chez des amis, etc. Et il est dans ces pièces-là, beaucoup plus proche de sa réalité que d'un style. Et, vous savez, je dois admettre que ces pièces où il fait de la recherche, où il essaye de faire un théâtre nouveau, moi personnellement ne me parle pas du tout. Je méprise pas, parce qu'on ne méprise jamais, mais parce que c'est un artiste, mais il ne me parle pas. Tandis que, et d'ailleurs lui, ça l'a, c'est pas que ça l'a vexé, mais cet énorme succès de ces pièces dans le monde entier, quand les autres se vendaient difficilement, ça l'a secoué quand même.
Le 15 juillet sera donc donné à Avignon, en présence de la veuve de l'ancien président dramaturge Dagmar Havlova, la première internationale de Circus Havel, jouée par des comédiens de Brno et des jeunes acteurs français. Une exposition de photos du photographe officiel de Václav Havel, Bogdan Holomicek, sera également inaugurée, un événement auquel nous reviendrons dans nos émissions. Voilà, en attendant, c'est la fin de ces faits événements. Merci de votre attention. Merci également de rester en notre compagnie pour la seconde partie de notre programme, une seconde partie consacrée, comme tous les 15 jours, à la rubrique touristique. Nous l'avons déjà dit, la saison touristique 2012 est placée sous le signe du 20e anniversaire de l'inscription du premier site tchèque au patrimoine de l'UNESCO. Le 12e et pour le moment le dernier site classé en 2003 se trouve à Třebíč, une ville de 40 000 habitants située dans le sud-est de la Moravie. Il se compose de trois éléments distincts, le quartier juif et son cimetière, ainsi que la basilique romane Saint-Procope. Tous trois offrent un témoignage exceptionnel de la coexistence et des échanges de valeurs entre les deux cultures chrétienne et juive à Třebíč depuis le Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle. Un reportage signé Jarka Gisubelova.
Vous avez dit la République tchèque ? Voyagez donc.
Třebíč a trouvé une nouvelle vie grâce à l'afflux de touristes qui viennent chaque année plus nombreux. L'inscription au patrimoine de l'UNESCO a notamment ressuscité le quartier juif. Premier monument de culture juive en dehors d'Israël a figuré sur la prestigieuse liste, observe notre guide Pavlina Poyerova, en nous conduisant dans ces ruelles étroites et sinueuses, entre ces recoins sombres et ces passages voûtés au charme romantique. Les toits de ce quartier pittoresque sont surplombés par l'impressionnante basilique romane Saint-Procope, construite au début du XIIIe siècle dans l'enceinte d'un monastère bénédictin par une corporation de bâtisseurs du sud-ouest de la France, qui était à l'origine de la construction de cathédrales à travers l'Europe. La fondation du monastère favorisa l'établissement d'un marché qui attira les commerçants parmi eux des juifs. Ainsi, l'histoire de Třebíč commence justement avec l'édification d'une église abbatiale, raconte Pavlina Poyerova.
La basilique Saint-Procope, de style roman intégrant des éléments gothiques, est un joyau de l'architecture de l'Europe centrale. Elle a accueilli des rois ainsi que des invités d'honneur. Le très précieux portail d'entrée roman s'appelle la Porta Paradisi, la porte du paradis. Son caractère unique est documenté par le fait qu'il n'existe que deux portails de ce type en République tchèque. Le deuxième, la Porta Celi, se trouve à Tichnov, près de Brno. Le portail est richement décoré de motifs de plantes, d'abîmes, de montagnes, d'animaux et d'hommes de toutes les nations. À son sommet, un ange, gardien de la basilique, est représenté.
Située sur une colline dominant la ville de Třebíč, la basilique est l'un des plus beaux édifices monastiques médiévaux de République tchèque. Elle est construite en blocs de granit à gros grains de face carrée, non recouverts de crépi. Certaines pierres sur les murs extérieurs portent aujourd'hui encore les marques utilisées au Moyen-Âge par les différents ateliers de bâtisseurs. Il existe à peu près 600 marques différentes. De nombreux éléments architecturaux novateurs pour l'époque et tout à fait exceptionnels pour la région ont été utilisés. La splendide abside comportant une galerie naine, la voûte octopartite fermant le presbytère et le chœur des religieux, ainsi que les trois arcs de triomphe.
L'histoire de la basilique Saint-Procope est étroitement liée à la fondation d'une abbaye bénédictine en 1101 par les princes Rodrigue de Brno et Litold de Znojmo, membres de la branche morave de la dynastie régnante des Přemyslides. Le monastère bénédictin, richement doté, est devenu un centre important de la vie ecclésiastique et du développement économique de la région alors peu peuplée. Ses premiers édifices en bois ont été progressivement reconstruit en pierre. Quant à ses bâtisseurs, on sait qu'ils appartenaient à une corporation de tailleurs de pierre et charpentiers utilisant des techniques de construction originaires du sud-ouest de la France. Érigé entre 1240 et 1260 en style roman intégrant des éléments gothiques, c'est une église à trois nefs et à triple cœur dotée d'un presbytère allongé, d'un porche de plan carré ouvert au nord, de deux tours coiffées de coupoles à l'ouest. À la nef principale, haute et puissante, s'ajoute deux nefs latérales plus petites.
La construction de la basilique haute de 27 mètres, longue de 72 mètres et large de 20 mètres fut achevée avant 1260. Le trésor de cette basilique est qu'elle fait apparaître des éléments romans en voie de disparition réalisés à l'aide de techniques gothiques. La basilique renferme maintes mystères comme celui de la porte sud, jusqu'alors emmurée et dont on ignorait l'existence pendant longtemps. Les murs intérieurs sont aujourd'hui dépouillés, mais des traces de leur revêtement d'origine ont été découvertes dans le chœur. En revanche, les fresques d'origine datées autour de l'an 1260 et préservées dans la chapelle abbatiale ont été redécouvertes et restaurées en 1932. Elles représentent des scènes de la vie de l'apôtre Jean et sont les plus anciennes de Moravie après celles de la rotonde Sainte-Catherine de Znoïmont. Endommagée pendant la guerre hussite, la basilique fut pillée de nouveau en 1468 par les troupes du roi de Hongrie, Mathia Corvin. Victorine, fils de Georges de Podiebrady, roi de Bohême, se cachait en effet entre ses murs. Les moines bénédictins quittèrent Třebíč en 1525. Le domaine changea souvent de propriétaire après avoir appartenu à des familles nobles moraves telles que les Pernstein et les Steinberg. Il est racheté en 1629 par les Wallenstein. Ils construisirent un nouveau château sur le site du monastère détruit, relié directement à la chapelle. Jan Joseph, comte de Wallenstein, procéda à la rénovation complète de la basilique, menacée de disparition. Elle était en effet utilisée jusqu'alors comme dépôt de blé et comme cave de fermentation pour la bière. Pavlina Pojerová rappelle.
Až po roce 1704 je mu vráceno původní poslání.
Après 1704, la basilique retrouve sa mission d'origine et est de nouveau consacrée à Saint Procope, abbé du couvent de Sázava et patron des mineurs. 20 ans plus tard, les Wallenstein confièrent les travaux de restauration au célèbre architecte tchèque František Maximilián Kaňka. La restauration de la nef s'acheva en 1733. Plusieurs fenêtres furent agrandies et une nouvelle façade flanquée de deux tours coiffées de coupoles baroques fut construite. A vybaven barokními sochami
českých svědců s vysokou uměleckou hodnotou. L'intérieur de la basilique est orné de statues baroques des saints patrons tchèques. Jean Sarkander, Jean de Nepomucène, Adalbert, Procope, Ludmila, Venceslas et les saints Cyril et Méthode. À l'origine, la basilique était décorée de 12 statues d'apôtres en argent et de la statue du Christ en or. Au cours des guerres hussites, ces statues ont été descendues dans l'une des deux galeries souterraines et y furent enfouies. Plus tard, lorsque les moines allèrent les chercher, ils ne les trouvèrent pas. C'est ainsi qu'une légende relatant l'existence d'un fabuleux trésor ayant appartenu à des bénédictins et enfoui sous la basilique naquit. La deuxième importante restauration de la basilique, commencée en 1920, est menée par l'architecte Camille Hilbert, qui prit aussi part à l'achèvement de la cathédrale Saint-Guy au château de Prague. On écoute Pavlina Pojerová.
L'abside comporte 33 colonnes et chapiteaux, l'équivalent des 33 ans de Jésus-Christ. On y trouve des fenêtres romanes géminées derrière lesquelles se poursuit la galerie naine. Les fenêtres sont ornées de vitraux représentant les quatre saisons de l'année. L'autel derrière lequel se cache l'unique rosace romane d'origine a été créé par des artistes pragois en 1930 à l'occasion de l'exposition d'art chrétien à Paris. Trois ans plus tard, l'hôtel est exposé à Rome. Lors des deux expositions, il remporte le premier prix sur demande de Camille Hilbert. Il est offert à la basilique de Třebíč.
A na žádost doktora Kamila Hilberta byl darován právě této bazilice.
La règle du silence a un esprit d'ancienneté de spiritualité demeure comme s'il était encore présent dans l'ensemble du complexe conventuel et plus encore dans la crypte qui est un endroit magique. Pavlina Pojerová décrit.
La partie la plus belle et la plus authentique de la basilique, c'est la crypte romane datée de l'année 1220. Construite sur un plan en forme de croix grecque, elle est ornée de 50 colonnes portant des chapiteaux aux motifs végétaux. À l'origine, la crypte était un lieu où l'on enterrait les moines. Au XVIe siècle, les dépouilles furent déplacées et l'espace servit de dépôt aux tonneaux de bière. Pour les faire entrer, une colonne fut supprimée et on créa une nouvelle entrée. Pour ce qui est des voûtes, à nervures brisées, elles sont faites avec du bois d'épicéa vieux de 150 ans déjà au moment de son traitement. Le bois était trempé dans du lait de chaux pendant très longtemps. Le processus pouvait durer jusqu'à 80 ans. Une fois sec, il se transforme en bois pétrifié avec lequel sont faites les voûtes de la crypte.
Plusieurs scènes de films historiques dont Markéta Lazarová, meilleur film de l'histoire du cinéma tchèque, récemment restauré, ont été tournées dans la crypte de la basilique Saint-Procope. Nombreuses d'entre elles ont également été tournées dans les ruelles du pittoresque quartier juif de Třebíč, dans lequel nous nous rendrons la prochaine fois.
Voilà, et on arrive au bout du bloc actualité, préparé donc par la rédaction française de Radio Prague. Merci encore de votre attention, merci également de votre fidélité, et à très bientôt de nouveau à l'écoute de l'actualité tchèque sur Radio Prague en français. Ahoy!